que vers le sol natal mon corps soit ramené dans un sleeping du Paris Méditerranée. Terminus en gare de 7.
Voilà, comment ne pas commencer avec un extrait de Georges Brassens, supplique pour être enterré sur la plage de 7. On ne pouvait commencer donc autrement pour parler du centenaire de la naissance de Georges Brassens. Grand entretien ce matin avec plusieurs invités et des festivités aussi prévues à 7 tout au long du mois d'août. Les invités donc, Jeanne Corporon, adjointe au maire de Sète, chargée du centenaire de Brassens, qui a connu Brassens, le chanteur Maxime Le Forestier et le rappeur C'est Toi, Demi-Portion. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Alors je vais commencer avec vous, Jeanne Corporon. Certes, vous êtes chargée du centenaire de Brassens, mais ceux qui ne vous connaissent pas le savent moins. Vous êtes aussi la fille de l'un des meilleurs amis de Brassens, donc Henri Delpont. J'aimerais que vous me racontiez, vous, votre Brassens à vous.
Oui, tout à fait. Mon père, donc Henri Delpont, était très ami depuis l'école primaire avec Georges Brassens. Donc, tout naturellement, quand je suis née, bien, il faisait partie déjà de l'entourage familial proche. Je l'ai toujours côtoyé, au même titre qu'on côtoie un oncle ou le meilleur ami de son père. Donc voilà, c'est ce qu'il était. Donc évidemment, mes liens sont forts et je suis d'autant plus touchée que la ville de Sète ait décidé de rendre un bel hommage et de faire une belle fête pour le centenaire Brassens. Parce que nous, à Sète, c'est vrai que la culture, c'est notre nature, il ne faut pas l'oublier. Mais Brassens, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui ne peut être oublié dans le paysage culturel sétois au niveau national. Donc, je suis très fière de porter ce centenaire et que la ville, donc à travers son maire François Comen, me l'ait confié.
Alors, Jeanne Corporon, je reviens à cette question, quel était votre Brassens à vous? Vous dites un oncle, mais quel type de personnage c'était? Parce que nous, on a juste l'homme de scène, l'homme engagé, mais vous?
Bien, moi, l'homme, c'était quelqu'un de très simple, de très authentique, de modeste, et surtout avec un esprit de convivialité et de gentillesse. De bienveillance, voilà, c'était quelqu'un de bienveillant. Il aimait les gens, c'était pas du tout un ours, comme on semblait le dire, surtout au départ de sa carrière. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup les gens, il l'a prouvé, il a gardé ses copains d'enfance, ses copains de jeunesse, il
ça,
les a toujours
important.
Gardés. Oui, c'est très très important, très très important. C'est pour ça que quand on a décidé de faire quelque chose, quand la ville a décidé de faire quelque chose pour Brassens, on voulait trouver une idée qui corresponde au vrai Brassens, à l'homme. Donc, on a choisi un bateau phare parce que Brassens, il ne faut pas oublier que quand il venait en vacances chaque été à Sète, il avait un petit bateau et il allait l'amarrer, ce bateau, au phare de Roquerolle qui est sur l'étang de Thau. C'est un petit phare, donc, et là, il plongeait, il ramassait les coquillages, il était avec les copains. C'est pour ça qu'on a décidé de faire l'acquisition d'un bateau phare parce que ce phare ressemble exactement au phare de Roquerolle. Et donc, on a baptisé le bateau le Roquerolle et sur ce bateau, les gens peuvent venir suivre les pas de Brassens, c'est fléché, mais il y a également une visite guidée et on rentre. Ce n'est pas un hommage, mais c'est un lieu de vie où on sent la présence de Brassens à tous les instants, sur tous les ponts. On évoque un peu tous les moments de sa vie, c'est-à-dire son enfance avec ses parents, puisque ses parents étaient très importants, sa maman Elvira était très importante pour Georges. Et ensuite, il y a l'adolescence avec les copains, il y a également Paris, l'impasse Florimond, qu'on a reconstitué à Sète sur le bateau.
Alors, on va poser aussi la question à Maxime Le Forestier. Vous avez débuté dans la chanson, Maxime Le Forestier, en jouant les premières parties de Brassens à Bobino. Vous êtes devenu proche d'une certaine façon. Alors, vous le dites dans le livre que vous avez écrit cette année, Brassens et moi chez Stock. Je ne faisais pas partie de ses amis, mais moi, je vous ai présenté comme l'héritier musical. Est-ce que j'ai eu raison ou tort?
Bon, nous sommes tous des héritiers musicaux de Brassens. Tous les gens qui chantent des chansons ont quelque chose à voir avec Brassens, que ce soit parce qu'il l'aime ou parce qu'il le déteste. Mais Brassens est une borne fondamentale dans l'histoire de la chanson française.
Votre Brassens à vous alors? Même question qu'à Jeanne Corporon.
Mon Brassens à moi, c'est une œuvre. C'est 171 chansons. Parfaite. Il n'y a rien acheté et il n'y en a pas beaucoup qui peuvent, dont dire ça.
Vous vous souvenez de on a dû vous la poser 15 000 fois cette question, mais votre rencontre avec Georges Brassens, le musicien dans un premier temps avant l'homme.
Oui, bah c'est, moi j'avais, je voulais apprendre à jouer de la guitare, donc j'avais acheté des partitions. Je ne savais pas que Brassens chantait à l'époque. Et le mec m'avait vendu 4 chansons de Brassens. Et c'est là que j'ai découvert, dans la même semaine, la chanson, le Brassens et la guitare. Ça a orienté ma vie.
Alors, vous racontez Brassens dans le livre que vous avez écrit, Maxime Le Forestier, Brassens et moi. Vous racontez aussi comment vous avez hérité des chansons de Brassens avec les paroles, les mélodies et les accords. Comment se passe, comment vous recevez ce recueil, ce que vous appelez une Bible? Comment ça se fait que vous soyez en fait effectivement le récipiendaire de l'œuvre de Brassens?
Oh, cette Bible, elle est publiée, hein. Je suis pas le seul à la voir.
Oui, mais vous avez l'original.
J'ai été un des premiers à la voir parce que j'invitais Gibraltar, son secrétaire, à chaque fois que je chantais à Paris. Et au début des années 90, il est arrivé dans ma loge avec ce livre en me disant, voilà, je prends ma retraite, il y a là-dedans tout ce que Georges souhaitait lui survivre. Et donc, ça a été pour moi une découverte, parce que je connaissais la plupart des chansons, évidemment, mais il y en avait à la fin que j'avais jamais entendu et que j'avais jamais joué, qui étaient les chansons posthumes, quoi, les chansons qu'il n'avait pas eu le temps d'enregistrer lui-même. Et ça a été pour moi une découverte et une source de bonheur exceptionnelle.
Et vous allez les reprendre, Maxime Le Forestier. Vous allez partir en tournée. Alors, je voudrais qu'on écoute un extrait des Passantes que vous avez repris.
Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime pendant quelques instants secrets.
Lors de cette tournée, Maxime Le Forestier, vous dites « C'est là que j'ai compris la musicalité de Brassens ». Alors, moi, je vous pose la question, c'est quoi la musicalité de Brassens ?
C'est une grande science de l'harmonie, d'abord, parce que comme il n'avait que sa guitare et la contrebasse de Pierre Nicolas et quelquefois une deuxième guitare, il n'avait pas la palette musicale qu'avait un Trenet, un Montand à l'époque. Donc il a fallu qu'il trouve l'originalité d'une chanson par rapport à l'autre par la mélodie et l'harmonie qu'il y avait dessous. C'est absolument parfait pour chanter guitare-voix, quoi. C'est fait pour ça. C'est pour ça que c'est difficile d'orchestrer Brassens. Beaucoup s'y sont cassés les dents.
Et comment vous expliquez justement le succès de Brassens au long cours? Parce que à l'époque où on le découvre, il y a aussi le rock'n'roll qu'on découvre, puis la période des yéyés, il y aura d'autres périodes. Lui, il traverse le temps.
Oui, alors ça, j'ai une idée de ça. Vous savez, j'ai fait 500 concerts dans ma tournée Brassens. Et presque tous les soirs, j'ai bavardé avec des spectateurs. À chaque fois, je leur ai demandé, mais qu'est-ce qui vous a amené à l'œuvre de Brassens? Et tous m'ont répondu, c'est un père, c'est un oncle, c'est un prof, c'était lié à quelqu'un qu'ils aimaient. Personne ne m'a dit, c'est la radio ou la télé. Donc c'est parce que c'est profondément lié à quelque chose d'affectif. Que nous continuons à aimer Brassens.
On va poser la question d'ailleurs, Maxime Le Forestier, à demi-portion, vous êtes rappeur, vous êtes sétois, vous avez 38 ans, vous organisez le demi-festival à partir de mercredi à 7 dans le cadre du centenaire. Moi, je voulais vous poser la même question qu'aux autres, à Jeanne Corporon et à Maxime Le Forestier. Pour vous, Brassens, c'est quoi ?
Brassens, c'est quoi ? Ben, pour ma part, je dirais c'était les premiers rappeurs.
À ce point-là.
De l'époque, ouais, à ce point-là. À une époque où c'était un peu plus libre. L'époque de Léo Ferré, Renaud, C'était beaucoup de textes. Et vu les instruments qu'il utilisait, ça laissait beaucoup place aux paroles. Et c'était quelqu'un d'engagé, moi, qui ai découvert un peu plus tard, qui a grandi plus ou moins avec des groupes comme IAM, Oxmo Puccino. Je dirais que voilà, Brassens, étant aussi natif de Sète, ben on était obligé de s'intéresser à ce personnage.
Alors justement, demi-portion, vous avez fait des reprises de Brassens. Moi, je voudrais qu'on écoute un petit extrait du Mécréant.
Brassens, les grandes gueules, demi-portion, hommage à Jean-Paul Brassens. Est-il à notre temps? Rien de plus odieux, de plus désespérant que de ne pas croire en Dieu. Je voudrais avoir la foi de mon cher Bonnier. Qui est heureux.
Alors effectivement, c'est pas une reprise, c'est un hommage que vous faites à Brassens.
Exactement.
Brassens, il est. Alors vous dites, il est le premier rappeur. En quoi il vous guide dans l'écriture des textes? J'imagine que c'est plus par là que vous y allez en tant que poète, en fait.
Ben, en tant que poète, ouais, on s'est intéressé beaucoup à ses rimes, sa façon d'écrire. Pour ma part, sa liberté, c'est surtout ça, c'était de travailler sans pression. Moi qui monte souvent sur Paris pour la musique, je sais que c'est pas facile quand on vient d'une petite ville comme cette. Et voilà, faut se donner deux fois plus pour se faire entendre, pour faire les choses et essayer de travailler avec les copains d'abord. Essayer de faire tout avec sa famille, avec ses potes et de pouvoir avancer. Voilà pour moi un exemple d'un artiste classe qui a essayé de faire ses choses malgré qu'il était mal aimé dans la ville. Il essayait toujours de faire les choses bien.
Alors j'aimerais vous poser la question à tous les trois, Jeanne Corporon, Maxime Le Forestier et Demi Portion. Je sais que c'est pas facile, mais Brassens, on l'aime toujours pour une raison. Alors avant de passer aux questions des auditeurs, s'il y en a, moi j'aimerais vous poser la question rapidement à chacun des trois. Pour quelle raison Brassens est présent pour vous? Est-ce que c'est l'homme? Est-ce que c'est le musicien? Jeanne Corporon?
Bien, peut-être parce qu'il raconte des histoires qui nous sont proches. Il nous parle directement à travers des personnages qu'il met en scène comme des petites pièces de théâtre. Il nous raconte des histoires et ces histoires-là, elles nous touchent. Peut-être pour ça. Et puis qu'on sent que derrière, il y a un homme vrai.
Maxime Le Forestier.
Parce que c'est devenu une légende aussi. Tout le monde se raconte, enfin, ceux qui aiment Brassens se racontent plein d'histoires le concernant. Et c'est vrai que c'est en liaison avec ses chansons. Il a raconté son monde, il avait son petit théâtre, et c'est ça qui a forgé la légende.
Il n'a pas fait que cela. D'ailleurs, il était engagé, quoi, anarchiste, pacifiste.
Non. Enfin, quand on lui demandait qu'est-ce que t'as fait en mai 68, il a répondu des calculs. parce que c'est vrai qu'il était malade en mai 68. Mais non, il n'aimait pas ça. Il m'a dit une fois, je supporterais pas que quelqu'un aille se faire tuer pour une histoire que j'ai racontée, pour quelque chose que j'ai dit. Il était très très en retrait de ça. Dans sa jeunesse, il a été très anarchiste, il a écrit des papiers absolument incroyables dans le monde libertaire, mais il s'est assez vite détaché de ça.
Demi-portion, vous l'aimez pour quelle raison? Ce qu'on a dit tout à l'heure?
Ben, je dirais indémodable.
Indémodable?
Ouais, traverse les temps.
On va passer aux questions des auditeurs. Patrick est à Annecy. Bonjour Patrick.
Oui, bonjour.
Alors, bonjour. Votre question.
Alors moi j'ai eu un brin de fierté parce que j'ai vu deux fois Brassens sur scène en 73 et en 78 et ça m'avait ému beaucoup. Voilà. Et à une époque, quand j'étais plus jeune, vers 10-13 ans, je comprenais pas tous les mots. Alors j'avais un carnet, je marquais les mots et après je cherchais sur un dictionnaire. Voilà.
Merci beaucoup, Patrick. Ouais. Qui veut répondre à ça, le Brassens sur scène? Jeanne Corporon.
Oui, j'ai eu la chance de le suivre en tournée. Et donc, j'ai vu, en effet, l'engouement et l'émotion du public quand Brassens était sur scène et les applaudissements qui n'en finissaient plus. Et dès que Brassens sortait de la scène, il allait dédicacer des photos. Et je voyais là les regards, les yeux des gens qui brillaient.
Maxime Le Forestier, vous avez vu la même chose. Vous, il n'était pas simple quand même sur scène, Georges Brassens.
Comment pas simple?
Alors, il était simple avec sa guitare et sa chaise, mais il parlait pas beaucoup au public.
Il parlait pas du tout.
Voilà.
Mais ça ne se faisait pas non plus. Brel non plus ne parlait pas. Ça se faisait pas de parler au public à cette époque-là.
Ouais. Ouais, vraiment. Alors, on a une question de Denis. Denis qui est au
oui.
Standard. Bonjour Denis, vous êtes
oui,
dans l'Oise.
Bonjour. Bien évidemment, je fais partie de la génération Brassens et je considère Brassens comme un des plus grands auteurs, bien entendu. Mais je voudrais aborder l'aspect humain et l'homme qu'il était réellement. Dans ses chansons transparaît quand même un homme très très libertaire, anarchiste, bien qu'il ait chanté aussi beaucoup l'amour. Dans ses chansons transparaît effectivement cet aspect de caractère. J'évoquerai Le Gorille, par exemple, où ça prenait quand même une institution.
Oui, voilà, la justice.
Tous. Et j'aimerais savoir finalement quelle chanson il aurait pu composer dans notre société actuelle où la liberté est mise à mal avec cette pandémie. Et aurait-il composé, par exemple, une chanson sur le pass sanitaire?
Qui peut répondre à cette question? Jeanne Corporon, Maxime Le Forestier, demi-portion.
Oui.
Maxime Le Forestier.
C'est impossible de répondre à cette question parce qu'on ne fait pas parler les morts. Et puis, il me semble que Brassens ne réagissait jamais à quelque chose de précis. C'était plutôt des institutions, des situations, des choses comme ça. Je ne le vois pas écrire quelque chose sur les passes sanitaires.
Jeanne Corporon a l'air d'approuver là en studio.
Oui, tout à fait. Comme dit Maxime, si bien Brassens ne réagissait pas à des événements de ce style. Et il s'adressait plutôt, en effet, à des institutions qu'il critiquait. Voilà, il n'aimait pas la hiérarchie sociale. Il n'aimait pas qu'on étiquette les gens, non plus quand il parle des prostituées. Bon, tout le monde en a pris pour son grade. D'ailleurs, remarquez que ce soit toutes les institutions et oui, un peu tout le monde. Mais mis à part cela, c'était un homme bien sûr qui avait ses idées, mais il n'était pas engagé. Et il avait horreur qu'on le qualifie de quelqu'un d'engagé.
Bon, autant pour moi. Alors, demi-portion.
Moi, je pense qu'on aurait besoin de Brassens en ce moment. Ouais, il faut bien parler en ce moment. Je pense que il y a beaucoup d'artistes qui restent dans le silence avec tout ce qui se passe. Et j'aurais dit que peut-être il aurait pris la parole. Voilà.
Une chanson, peut-être qu'il aurait fait une chanson. C'est difficile de faire parler quelqu'un
alors,
qui n'est plus là.
Il y a une question sur franceinter.fr de Bernard qui aimerait qu'on rappelle aussi quand même cet épisode parce que on dit pas engagé et en même temps, pouvez-vous rappeler en fait comment Brassens a été censuré à la radio nationale de l'époque?
Oui. Il y avait beaucoup de gens qui étaient censurés à l'époque. C'est-à-dire les radios n'étaient pas du tout comme aujourd'hui. Enfin, c'était une censure politique. Donc, mais ça n'a servi à rien.
Mais...
Parce que le gorille est passé quand même dans l'esprit des gens, quoi.
Mais est-ce qu'on peut écrire comme Brassens écrivait à l'époque? Est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir la même plume aussi acide?
Oui, sans doute, oui. Mais ça passera toujours pas, parce que moi j'ai connu trois censures. La censure politique, celle-là on pouvait la détourner, on pouvait la contourner. La censure économique, c'est-à-dire ne passer que ce qui marchait. Et maintenant c'est une censure populaire, je pense que c'est la pire, mais on doit pouvoir la contourner aussi.
Alors, il y a une autre question de Steph, alors Steph ou Stéphanie, Stéphane, je ne sais pas, qui dit sur franceinter.fr, c'est mon grand-père qui m'a fait découvrir Brassens, il passait ses disques dans la voiture en m'emmenant à l'école primaire. Je ne comprenais pas tout, mais j'adorais, il m'a donné un recueil de poèmes et de chansons quand je suis partie de la maison pour mes études. C'est la belle histoire que chacun, finalement, avec Brassens.
Oui, avec Brassens, il y a une histoire de transmission, en effet, puisque Brassens, maintenant, appartient à une génération qui pratiquement n'est plus. Donc, il y a eu la transmission 40 ans après sa disparition. On l'écoute encore. Donc, il y a eu une réelle transmission. Et ça, c'est pas évident pour tous les auteurs interprètes. Donc, Brassens a marqué son époque et il continue à marquer notre époque parce que ses textes sont intemporels. C'est vrai qu'il a passé toutes les époques avec beaucoup de succès.
Maxime Le Forestier.
Oui, bien sûr, c'est intemporel, c'est vrai. Enfin, intemporel, tant qu'on comprend sa langue, parce que la langue française évolue, a toujours évolué, et à un moment, on comprendra Brassens aussi mal qu'on comprend Villon dans le texte ou Rabelais, quoi. Mais tant qu'on parlera la même langue que lui, ce sera intemporel.
Oui, vous dites qu'un jour ce sera le Victor Hugo ou enfin ce sera ces Rabelais. Vous pensez vraiment qu'on peut oublier Brassens, vous ?
Ben non, mais comme on n'a pas oublié La Fontaine, mais La Fontaine avait traduit Ésope qu'on ne comprenait plus.
Oui.
Vous voyez, ce sont des idées qui se remettent au goût du jour ou à la compréhension du jour. Régulièrement, mais c'est une évidence qu'on ne parle plus la même langue que Villon et qu'il a fallu Brassens pour nous rappeler que Villon avait existé.
Jeanne Corporon, avant qu'on ne se quitte, il y a quelques mots sur le centenaire à 7. Il y a beaucoup de rendez-vous. Quelques dates rapidement brossées.
Alors justement, j'aimerais préciser que pour son centenaire, il est très vivant, Brassens, très vivant sur le bateau. Donc, comme je vous disais, il y a une visite. Et le soir, vous pouvez conclure la journée avec un concert, puisqu'il y a des concerts tous les soirs. Et surtout, il ne faut pas oublier que la ville de Sète a donné une carte blanche à François Morel pour la date anniversaire du 22 octobre au Théâtre Molière.
Date anniversaire de la naissance
de la naissance de Brassens, c'est le 22 octobre, Théâtre Molière, carte blanche à François Morel. Mais jusque-là, on a des activités, on a des concerts, on a des conférences tous les jours sur le bateau. Donc, j'invite tous les gens à y aller. C'est la journée, c'est très agréable, on peut y manger. Des tapas, on peut y manger dans un restaurant avec des recettes sétoises.
Avec un pass sanitaire. Merci beaucoup,
oui.
Jeanne Corporon, Maxime Le Forestier.
Merci.
Et demi-portion d'avoir répondu présent à l'appel du centenaire de Brassens. Merci à vous. À suivre la revue de presse, le débat de midi avec Thomas Chauvineau et André Manoukian sur la route de la musique. France Inter.